Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Eh bien le bonsoir, chers lecteurs, chères lectrices, chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue dans votre émission littéraire, un livre sur le zinc. Je déclare la 5e saison de cette émission ouverte. Ouais, elle sera de nouveau remplie d'histoires captivantes qui vous feront explorer de nouveaux mondes à travers les mots. Romans d'aventure, thrillers palpitants, romans envoûtants, recueils de poésie, science-fiction, fantastique, dystopie, manga, BD, biographie. Ce sera une nouvelle saison pleine de surprises et riche d'auteurs, d'autrices qui nous feront une nouvelle fois voyager, de nous plonger dans les pensées, les émotions des personnages, de vivre leurs aventures et de réfléchir à des questions plus profondes. Et cette émission va être un bien bel exemple de ce que vous allez retrouver toute l'année, car il va y en avoir pour tous les goûts. Nous vous invitons ce soir dans notre intimité estivale avec la présentation de nos livres de vacances, avec notre enseignante documentaliste préférée. Salut Pauline.
Salut tout le monde.
Notre toute nouvelle libraire, salut Valérie.
Hello.
La livrerie est ouverte tous les jours, sauf le dimanche, le lundi, c'est ça? Rappelle-nous l'adresse.
Alors, c'est au 6 rue Chaptal,
et de
en bas de la place Chaptal, à Mende.
Et de quelle heure à quelle heure?
C'est ouvert de 10h à 13h et de 15h à 19h, sauf le samedi, puisque tu m'invites à boire l'apéro tous les samedis. Je ferme donc à 18h.
Voilà, et n'hésitez pas à y aller. On va vous présenter d'ailleurs des livres que tu nous as proposés, notamment, allez, une fois n'est pas tout coutume, on va démarrer avec Pauline qui va nous parler d'une saga romanesque fantastique de 6 tomes écrite par l'auteur américain Michael McDowell et considérée comme son œuvre la plus importante, Blackwater. Alors, elle fut initialement publiée aux éditions Avon de janvier à juin 1983, raison d'un livre par mois. Ce roman feuilleton connut un tel succès qu'il propulse son auteur aux portes d'Hollywood, inspire à Stephen King la sortie épisodique de La Ligne verte en 1996.
Ok, eh ben ouais, Blackwater, waouh, j'adore, j'ai écouté, j'attaque tout juste le tome 6 et je ne veux pas que ça s'arrête et pourtant ça va bien devoir s'arrêter, mais croyez-moi, j'ai envie de m'y plonger comme dans une bonne série tous les soirs, me mettre dans mon lit et me retrouver avec la famille Casquet et découvrir leur vie, ce qui leur arrive parce que je passe du bon temps avec eux. Bon, alors d'abord, c'est une... Avant d'être un livre... Non, pas avant. En même temps qu'être un livre fantastique, c'est une grande saga familiale. On suit la famille Casquet qui habite en Alabama. Il fait chaud, l'air est moite. On est au bord d'un fleuve hyper agité. Il fait toujours très lourd. Il y a des moustiquaires partout. Il y a une ambiance déjà qui se pose. Alors... Je me suis posé la question au bout d'un moment de savoir si je ressentais cette ambiance parce qu'il y avait beaucoup de descriptions et en fait non. Et c'est ça la magie de Blackwater, c'est que l'ambiance se pose d'elle-même. Tu es en Alabama, tu es au bord de la Perdido dans les maisons des Casquets. Et un jour, donc cette famille Casquet qui est une famille qui possède des scieries, une famille riche d'entrepreneurs, voit sa vie bouleversée. Parce que la Perdido, donc le fleuve qui traverse leur village, va déborder, va y avoir une grande crue qui va détruire pas mal de choses, pas trop leur scierie, mais qui va détruire pas mal de choses et qui va faire surtout rentrer quelqu'un dans leur vie. Et cette personne, c'est Elinor. Oscar, un des fils de la famille Casquet, va se balader en barque suite à la crue pour essayer de voir ce qu'il peut sauver. Et dans un hôtel, il trouve Elinor assise sur un lit, bien apprêtée, bien habillée, avec ses deux petites valises. Il se dit « mais je vais sauver cette femme que personne ne connaît et qui visiblement allait devenir institutrice dans le village » et va la ramener chez lui. Et elle va bouleverser toute l'histoire des Casquets. Elle va rentrer dans leur vie et donc de 1919 au moment de la crue, et là donc moi je suis au tome 6 dans les années 60, on va voir comment Elinor, mais pas que, en fait tout un tas d'autres choses va tout bouleverser, va tout changer. Donc c'est, voilà, c'est d'abord une vie de riche propriétaire en Alabama qui possède une scierie, qui vont découvrir sur leur terre d'autres choses, qui vont investir, qui vont avoir des enfants, qui vont avoir des morts dans leur famille, des événements particuliers. Enfin, il va se passer plein de choses. Vraiment, je le redis comme dans une bonne série qu'on a envie de relancer tous les soirs. Et puis, il y a ce côté fantastique. Alors, c'est marrant parce que pendant ma lecture, je suis tombée sur une définition du fantastique par Roger Calois, que je ne connaissais pas particulièrement, mais qui définit le fantastique comme une irruption de l'inadmissible au sein de l'inaltérable légalité quotidienne. Mmh. Et je trouve que ça, c'était très rigolo parce que ça s'applique parfaitement à Blackwater. C'est-à-dire qu'on a une vie qui suit son cours, à peu près normalement, alors avec les événements qu'il peut y avoir,
voilà. La fameuse crue.
Voilà, la fameuse crue, mais aussi, voilà, dans la vie des casqués en général, la crise de 29, voilà, il y a une mort importante dans la famille. Et il y a ces moments où le fantastique s'infiltre d'un coup sans que tu le vois venir. Et ce fantastique, il va se traduire notamment dans Elinor, qui n'était pas une cliente de l'hôtel habituel, qui finalement a un secret, qui est une créature de l'eau, qui vit à travers l'eau, qui a une relation avec l'eau qui est absolument incroyable, que personnellement j'aimerais vivre, qui va nager tous les jours dans la Perdido, qui est pourtant un fleuve hyper agité, hyper boueux, dans lequel personne ne se risquerait, parce que même ceux qui s'y noient, on ne les retrouve jamais, tellement c'est un fleuve vif.
Et on sait pourquoi, après, on ne les retrouve pas.
Oui, on sait, oui.
Tu l'as lu, Valérie.
J'ai la saga, c'est même pas que je l'ai lu, c'est que quand il l'avait sorti, c'est aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture.
Voilà, et alors c'est sorti en 2022, seulement 40 ans après, c'est sorti en France. C'est pour ça qu'on en parle aussi, parce qu'il a écrit en 1983, mais c'est sorti qu'en 2022 en France.
C'était incroyable quand il l'a sorti. En fait, donc déjà, c'est un livre de poche, donc c'est accessible. C'est des petits livres, mais qui sont magnifiques.
C'est de très belles éditions, Toussaint L'Ouverture. Ouais.
Et quand il l'a sorti, donc il y a eu quand même une grosse campagne de publicité autour. Et sur la première page, on savait qu'il allait avoir 6 exemplaires et on avait les dates auxquelles il sortait. Et autant vous dire que quand on lit le premier, qu'on est passionné, qu'on sait que 10 jours plus tard, il y a le deuxième qui sort. Voilà,
il a sorti.
Tu n'attends que ça.
Voilà. Ah, mais puis moi, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres pour trouver. Pouvoir... Ah oui, j'ai été à Albi, j'ai été à Sète.
D'avril à juin 2022, il a sorti. Mm-hmm.
Et c'était incroyable. Et on savait que le jour de l'ouverture, enfin de la sortie, enfin, moi, c'était impensable de ne pas
l'avoir,
de pas l'avoir ce jour-là. Enfin,
et alors que ce qui est très particulier, c'est qu'il n'y a pas de... Je ne pourrais pas vous dire, il y a plein d'événements, il y a plein de choses fabuleuses qui se passent. C'est plutôt une vie quotidienne un peu particulière parce que c'est une famille riche à qui il arrive des choses. Mais par contre, les personnages sont fabuleux. Enfin, voilà, il y a Elinor, là, qui est récupérée, qui est une femme, on l'imagine. Moi, je l'imagine assez stricte, mais pas froide, dure, mais pas mauvaise. À la fois dure et douce, c'est très... Enfin, alors moi j'adore un personnage qui arrivera plus tard dans les tomes suivants, mais une des filles de Oscar et Elinor, la Myriam, qui est absolument incroyable, qui dit tout ce qu'elle pense, qui ne pense qu'à l'argent, mais qui est d'une franchise incroyable, qui est très drôle. Enfin, il y a des personnages extrêmement marquants. Et puis il y a une écriture. Alors j'adore cette écriture parce que elle est intelligente, elle est riche. Mais elle est très fluide, elle n'est pas prétentieuse, elle prend pas le dessus sur l'histoire, elle l'accompagne vraiment, et ça se lit. Alors moi, j'avais prévu de parler dans cette émission des tomes 1 et 2, parce que je pensais que c'est ce que j'aurais lu d'ici ce soir, et j'en suis au tome 6, parce que c'est un livre qu'on ne lâche pas.
Voilà, il y a 6 tomes. D'accord.
Donc franchement, lancez-vous, parce que c'est excellent.
C'est sur combien d'années, ces 6 tomes?
Je crois. Dans les années 60, et ça a commencé au début des années 20.
Oui, il me semble. En fait, on suit une génération de la famille Casquet. Il y a la partie vie de famille, puis il y a la vie aussi du village.
Oui.
C'est assez incroyable, parce que c'est... C'est, comme tu disais, c'est simple, mais c'est prenant.
Oui, en fait, on a enfin, envie de les retrouver, vraiment.
C'est ça.
De passer un moment avec eux, et même d'aller dans leur maison, de rencontrer les domestiques, de rencontrer la famille, de rencontrer les amis. C'est très chouette. C'est une excellente série, vraiment.
Super.
Ouais, puis il y a juste ce qu'il faut de... Quelqu'un qui n'aimerait pas tout ce qui est fantasy va quand même ne pas être saturé par ça, parce que c'est quand même très, très, très discret, c'est ponctué, enfin, le côté d'Elinor et sa relation à l'eau fantastique,
oui.
Pour reprendre la définition que tu avais donnée, elle est pas omniprésente, mais elle est juste là... On pourrait presque l'enlever, mais ça gâcherait tout l'ADN du livre.
Eh bien oui, eh oui.
Mais
si elle n'était pas là, l'histoire suivrait son cours complètement aussi. Sans ça.
Mais le fait qu'elle y soit, ça explique aussi beaucoup de choses.
Enfin, eh oui.
Ça crée une autre atmosphère.
Mais c'est palpitant, il se passe beaucoup de choses
c'est
dans
leur vie. C'est pas palpitant, non. Voilà. Non.
Mais c'est prenant.
C'est ce qui me semblait.
Oui. C'est prenant. C'est très addictif. Oui,
et c'est ça qui est très étonnant, parce qu'effectivement, ce n'est pas palpitant. À la fin d'un tome, on ne se dit pas « mais qu'est-ce qui va se passer ?»
Et oui, parce que souvent, c'est le cas.
Voilà, on a envie juste de continuer leur vie, de savoir qu'est-ce qui va arriver à toute cette famille, à tous ces personnages qui sont... Alors, je ne vais pas dire touchants, parce qu'il y en a peu qui sont touchants. Je ne sais même pas si je peux en citer un qui soit touchant.
Si, la petite fille, c'était quoi? C'était l'oncle. Alors, ça fait longtemps, moi, que je ne les ai pas relus, mais c'était le voisin de la maison à côté.
Oui.
Celui qui vivait seul. Où il y
avait qui a sa fille.
Qui a sa fille. Donc, il a la petite fille aussi, non? Ou c'est sa fille, je ne me rappelle plus.
Alors, il a sa fille qui va monter une ferme après.
Non, alors c'est, et qui a un enfant, du coup, avant de se recaser. Voilà, et qui prend souvent cette petite fille chez lui, où il y a des événements.
Oui, il y a quelques... Oui.
C'est mes favoris. J'avais oublié d'ailleurs la fille qui vivait dans les marais.
Oui, dans les marais. Bah, voilà,
incroyable.
En plus, il y a plein d'univers. Voilà, il y a ce lieu-là, cette ferme perdue dans les marais. Il y a la forêt. Il y a la rivière, il y a le village.
L'industrialisation en même temps.
Oui.
Il y a tout, en fait. C'est,
Et oui, il y a toute l'histoire d'une époque, en plus. C'est assez incroyable. C'est qu'il arrive quand même à faire rentrer de l'historique dedans. Franchement, c'est... C'est fabuleux.
Alors, c'est drôle que tu aies parlé tout à l'heure, Valérie, de livres de poche accessibles, parce que Stephen King a justement décrit cet auteur comme le meilleur auteur de livres de poche aux États-Unis à ce jour.
Oui, parce qu'au départ, quand il les avait publiés, c'était ça. En fait, c'était des tout petits livrets qui étaient vendus un peu comme des journaux, enfin, dans la rue, dans les petites boîtes. Et au départ, aux États-Unis, c'était ça. C'était un peu comme nous, dans nos quotidiens, on a des extraits de livres. Et c'était un peu ça au départ. Ça avait été publié. Ça porte un nom que j'ai oublié, mais c'était une lecture quotidienne.
Eh oui. Il arrive à instaurer un univers comme Stephen King peut le faire. Ça n'a rien à voir avec Stephen King.
Et
mais
comme qui, comme quel réalisateur pourrait le faire? Comme Tim Burton pourrait le faire.
Oui, oui. Alors, ben voilà, d'instaurer une ambiance.
Il a écrit un scénario pour Tim Burton. Quel film, à votre avis? Alors, il faut aller voir loin. Ah non, il faut remonter encore plus.
Oui, parce que là, tu faisais le parallèle.
Non.
Je faisais la parallèle. Oui, le parallèle avec l'eau, tout simplement.
Ouais. Beetlejuice.
Il
a écrit le scénario de Beetlejuice et Tim Burton lui a également demandé d'écrire l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais la collaboration n'est pas allée jusqu'au bout. Il signera quand même le scénario de La peau sur les os, 1996, adapté du roman de Stephen King. Alors c'est très drôle concernant son rapport avec Hollywood, parce qu'un jour, McDowell reçoit un appel du réalisateur de La nuit des morts vivants. Donc ce film qui, à l'époque, a marqué toute une génération. Mm-hmm. Pour ceux qui l'ont déjà vu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir. Bon, ça
a peut-être
un peu vieilli, mais... Voilà, c'était George Romero. Et donc, il avait une autre série télévisée. Et au téléphone, on lui a demandé s'il avait des scénarios. Donc, lui, il a dit, mais moi, je ne le fais pas encore, mais je peux apprendre, je peux en faire. Et à la fin des discussions, il dit, mais quel livre vous avez lu de moi qui vous ont donné envie de me contacter? Donc, c'était pas George Romero, ça devait être quelqu'un qui travaillait pour lui, son impresario ou quoi. Donc, il lui cite toute une série de livres. Et en fait, ils se sont trompés de McDowell. C'était un autre à qui il voulait parler. Et du coup, Romero a quand même lu les livres de McDowell en disant « C'est fou, on s'est trompé, j'ai à lire. » Il a adoré et il a voulu travailler à lui à la suite de ça. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans l'industrie du cinéma.
C'est fou, des fois, ça ne tient pas grand-chose.
Ouais, ça ne tient pas grand-chose. Allez, parfait, merci Pauline. C'est sur quelle maison d'édition donc, tu nous l'as dit?
Toussaint L'Ouverture.
Toussaint L'Ouverture, 2022.
Magnifique, très beau en plus.
Tout le temps. Il y a une nouvelle petite saga qui va sortir là au mois d'octobre. Un peu dans le même acabit.
Ah. Voilà. Tu as eu la primeur, tu ne peux rien nous dire.
Je n'ai pas le droit, sinon je peux mourir dans d'atroces souffrances, si non, je le dis.
Non, évitons. C'est quand même, pour revenir, c'est quand même fou qu'on attende 40 ans pour éditer ce livre en France. Oui. Quoi.
Bah, c'est un peu la patte de Monsieur Toussaint Louverture. C'est pas lui qui s'appelle Toussaint Louverture, c'est la maison d'édition qui s'appelle Monsieur Toussaint Louverture. Mais c'est quand même des écrits souvent un peu improbables, comme Swan Song, c'est...
Ah oui. Voilà. Très bien. Allez, merci. Un petit jeu pour toi, Pauline.
J'adore.
Moi, je ne joue pas. Quoi.
Toi, tu n'as pas le droit de jouer. C'est non. Nul. Parce que toi, tu m'as vendu le livre, donc ça ne marche pas, le jeu, avec toi. Oh. Allez, bonjour, Pauline. Je suis un auteur américain qui vient de sortir Les Éclats, un livre 13 ans après mon dernier ouvrage. Entre-temps, j'ai tenté sans succès d'écrire des scénarios pour Hollywood. Je suis l'un des auteurs principaux de la génération X. Mon premier roman acquiert un grand succès critique et commercial, me propulsant au rang de star alors qu'à 21 ans, je suis encore étudiant.
Et toi, tu l'as lu, ça ? Toi, t'as lu ?
Oui.
Tu l'as souffert.
Ce roman s'intitule « Moins que zéro ». C'est un roman de 21 ans. Mes livres, des dystopies qui se déroulent souvent dans des métropoles américaines, sont peuplés de personnages récurrents. Mon troisième roman et plus grand succès suscita à sa sortie en 1991 de très nombreuses controverses. Il fut notamment accusé de misogynie, ce qui conduisit son éditeur Simon & Schuster à arrêter la publication de son ouvrage. Le roman fut tout de même publié par une autre maison d'édition. Le film a été adapté au cinéma, 1991, avec Christian Bale dans le rôle principal de Patrice Batman.
Ah ouais, mais alors l'auteur ?
Je suis...
Il va falloir que tu m'aides. Hein, Bret Easton Ellis ?
Je suis Bret Easton Ellis !
Bravo !
Bravo, Pauline !
Incroyable.
Eh oui, Bret Easton Ellis, âgé de 59 ans, vient de sortir Les Éclats chez Pavillon Robert Laffont. 13 ans pour attendre ce roman, alors qu'il a tenté pendant 13 ans d'écrire des scénarios pour Hollywood qui n'ont pas forcément marché. Alors, on se replonge dans ce livre, dans une époque chère à notre auteur, les années 80. Alors, pourquoi cette époque ? Car Brett, en 80, est lycéen, il a 17 ans. Il fait partie de la jeunesse dorée de Californie. Il entre en terminale au lycée privé de Buckley. Il a son permis. Et avec ses amis, Tom, Suzanne et Debbie, sa petite amie, il expérimente les rites de passage à l'âge adulte. Alcool, sexe et jeux de dupe, lui qui a du mal à exprimer ouvertement son homosexualité. Voilà, c'est du Brett Easton Ellis, vous l'avez compris dans ma petite présentation. Donc tout va bien plutôt pour lui quand même, jusqu'à l'arrivée d'un nouvel élève qui s'appelle Robert Mallory, qui coïncide avec des disparitions d'élèves, d'animaux et de crimes d'un tueur en série surnommé le Trawler. Trawler qui signifie en anglais le chalutier. Parce qu'il y a peut-être des histoires de crochets dans ces disparitions d'élèves et ces clarifications possibles. Bref, Brett, toutefois étudiant paranoïaque, lui est en train d'écrire un livre qui s'intitule « Moins que zéro », car il est 17 ans. Et il se met à suivre Robert Mallory, à enquêter sur lui pendant que sa bande d'amis, lui, l'intègre dans le cercle fermé de ceux qui ont la meilleure table du lycée, avec Tom qui est le quarterback de l'équipe, Suzanne sa copine qui est la reine du lycée, et Debbie qui emmène autant au milieu de tous ces autres universitaires. Alors donc du coup, vous l'avez compris, on retrouve les thèmes chers à Bret Easton Ellis, une jeunesse dorée à la dérive, qui se noie dans la drogue, le sexe et l'alcool lors de scènes excessives qui se répètent.
Excessivement longue. Je suis en train de rechercher un message que tu m'as envoyé suite à ton acquisition.
Oui, c'est ça. Disons que le premier tiers du livre, c'est très très long à se mettre en route et on parle beaucoup. En fait, ce livre, c'est vraiment une biographie. Alors, il s'est essayé dans Lunar Park, son avant-dernier livre que j'ai beaucoup aimé, à écrire une biographie de lui, mais qui était un peu romancée. Celle-ci, il s'en rapproche encore plus, bien qu'il la romance toujours avec des tueurs en série. Il adore les tueurs en série. C'est vrai qu'à l'époque, des années 80, toutes ces personnes, et Tarantino l'a dit aussi suite à ses livres, ils ont tous été marqués par cette série de tueurs en série. On pense à Charles Manson, bien entendu.
C'est ça. Et il y en a eu tué la femme de Polanski, la petite jeune, je sais pas combien de coups de couteau, c'était sordide.
Oui, c'était
sordide. Le gars qui avait la croix gammée sur
Voilà,
le front,
et Et toutes ces femmes qui le suivaient l'avaient également. D'ailleurs, il y en a une qui va ressortir dans pas longtemps ou qui a demandé à ressortir. Et Charles Manson, c'est le plus... celui qu'on a mis le plus en avant, mais il y en a eu des tas à cette époque. Il y avait beaucoup d'hippies, beaucoup de LSD. Il y a eu beaucoup de crimes, de gens qui ne se retrouvaient pas dans la société et qui tuaient. Et Bret Easton Ellis l'a expliqué dans une interview. Et Tarantino l'a dit aussi que c'est une époque qui avait marqué tous ces gens qui, à cette époque-là, avaient 17, 18 ans. Voilà. Donc on retrouve cet homme cher, ce tueur en série sadique qui mutile des jeunes femmes, des jeunes hommes. On retrouve le mal-être du jeune Bret qui peine à trouver sa place. Ce regard cinglant sur ses privilèges, toujours dans son style caractéristique. Alors, il a une prose super froide, il use des répétitions métronomiques de noms propres, marques, grues, groupes, célébrités. Alors, on a l'impression parfois de retrouver une playlist Deezer dans ce livre. Alors, les chansons des groupes des années 80, ils rythment son roman avec ces groupes-là, qui sont malheureusement inconnus. Donc des fois, on s'arrête pour écouter le groupe, pour savoir la chanson, de quoi il parle. Donc c'est un peu dommage parce que ça bloque un peu le truc.
Il aurait dû créer lui-même la playlist pour aller avec la lecture.
Mais carrément, ouais. Carrément. Alors c'est la première fois qu'il évoque vraiment son homosexualité. Lui qui joue pour paraître hétérosexuel, sociable, chose qui au final il n'est pas vraiment. Comme je l'ai dit, point négatif, c'est un peu long à se mettre en route. Ça s'accélère finalement, mais que sur les dernières pages. C'est cru. C'est difficile à digérer, mais c'est du Bret Easton Ellis. Donc de toute façon, c'est un auteur qu'on adore ou qu'on n'aime pas du tout. Voilà. Donc, petit bémol, attendre 13 ans pour le sortir, c'est dommage. C'est un livre qu'il aurait pu continuer. C'est vraiment dans sa veine, c'est vraiment ses personnages, c'est vraiment son histoire. Donc, on est heureux de le retrouver, on est heureux de les retrouver. Et on pourrait se dire qu'après 13 ans, s'attendrait à autre chose. Voilà. Mais en fait, non, c'est juste qu'il n'a pas réussi à percer dans le cinéma, pas que par son écriture, parce que c'est un écrivain de génie. C'est que ça ne s'est pas fait pour diverses raisons et qu'au bout d'un moment, il s'est dit je vais écrire un livre. Il est revenu à ce qu'il faisait avant. Ce n'est pas quelque chose qu'il a maturé pendant 13 années. Quoi. Mais c'est un beau livre, quand même, à lire.
Je suis assez d'accord, mais un gros beau livre.
Que tu n'as pas lu.
Absolument pas.
Mais non,
j'étais laissé la primeur.
Voilà, par contre...
Mais j'ai eu tes réactions quasi indirectes à chaque fois que j'étais outré, c'est comme si je l'avais lu.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu cru le début. Par contre, je t'ai pas fait de réaction sur le second livre que je devais te présenter.
C'est vrai. Mais ça c'est une valeur surprise.
Ça, c'est une valeur sûre.
Je pensais que tu aurais pris le recueil de poésie plutôt, mais bon.
Non, mais ça, faudra attendre la fin d'émission pour l'entendre. Par contre, tu as lu Gabriella Winner, non? Un portrait Yuako.
Oui. Absolument.
De cette péruvienne née à Lima en 1975, considérée comme l'une des meilleures écrivaines latino-américaines de sa génération.
Oui,
connue comme journaliste, écrivaine de narrative non-fiction, et son premier roman, c'est justement Portrait Yuako. Et comme c'est une biographie, je vais m'arrêter là pour pas.
C'est exactement ce que je me disais quand je me suis rappelé que tu préparais les biographies. Je me suis dit, ben zut, s'il raconte la biographie, je n'ai plus rien à dire. Donc
absolument.
Merci
de
cette délicatesse. Donc c'est le Portrait Yuako de Gabriella Wiener. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais on va le garder comme ça.
Qu'est-ce que j'ai dit, moi ? Wiener.
Wiener.
Je dis à l'allemand, mais.
Oui, c'est très bien. Parfait.
C'est un des romans de la rentrée littéraire. Alors, c'est une biographie, ça n'est presque surprenant, en fait. Au départ, je pensais qu'elle avait utilisé son nom, qu'elle avait utilisé... mais pour faire un roman, je pensais vraiment pas que ce serait une biographie de sa part, tout simplement parce que quand elle parle donc son arrière-grand-père qui était elle le dit en plus, enfin c'est presque péjoratif, qui a failli découvrir le Machu Picchu, enfin c'était un explorateur, mais aussi un pilleur en fait. Hein.
C'était surtout un pilleur.
Un pilleur, mais bon à l'époque à l'époque c'était on fait des découvertes et on ramène on ramène nos découvertes, nos trouvailles sur le continent européen. Sauf que lui, ben il a accessoirement son grand-père qui est un peu le centre de son arrière-grand-père, ce qui était au cœur de cette histoire. Il a ramené aussi un zoo vivant, enfin pour une exposition. Enfin, c'est pas quelqu'un à qui on a envie de trop s'attacher, mais toutefois, le roman qui au départ, je le rappelle, je pensais que c'était un roman et pas une autobiographie, enfin une biographie familiale. Cette dame donc va au musée, au Quai Branly. Et une amie à elle lui dit, mais regarde ce statue, ce portrait Waco. Donc c'est des portraits qui sont faits avec plusieurs matières, qui sont faits, qui sont pas forcément symétriques. On n'est pas sur une perfection de sculpture, mais lui ressemblait beaucoup. Et donc son amie lui dit, mais regarde, on dirait toi, c'est incroyable. Et en fait, elle réalise qu'elle est dans une salle qui porte donc le nom de son arrière-grand-père. Et elle réalise effectivement que cette œuvre lui ressemble effectivement. Ouais. Donc elle part là-bas, elle enquête, elle découvre ce qu'était vraiment son arrière-grand-père, le trafic qu'il a pu faire avec ces objets qui sont considérés d'art aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas. Et voilà, cette histoire, moi, elle m'aurait... Ce retour en arrière, se replonger comme ça sur ces traces-là m'aurait allègrement suffi, ce côté découverte du Mexique, tout ça. Mais non. Et en fait, il y a une autre très grosse partie en fait, sur sa vie privée. Alors, peut-être qu'elle avait besoin de l'exprimer. Donc, c'est quelqu'un qui avait une vie, comment dire... Il y a une vie, enfin une vie assez vivante, puisque bon, elle vit un polyamour, donc elle avait deux maris, enfin, un mari et un amant, enfin elle avait voilà et ces moments-là, en fait, un peu comme avec Bret Easton Ellis. Sauf que le livre est plus court, donc les scènes de sexe sont plus courtes.
Mais oui, elles devaient être un peu moins crues quand même, non?
Oui, non, c'est mignon.
Je te décrirai pas ce que j'ai lu, mais...
Tu me l'as écrit par SMS.
Je te l'ai écrit par SMS.
Voilà. Non, je vais pas le lire en public.
J'ai passé mes vacances à lui envoyer les
détails.
Oui, les détails. Ouais. Voilà. Je suis désolée d'ailleurs.
Je t'en veux pas, ça a émoustillé tout mon été, c'était ouais. Fabuleux. Et du coup, là, Gabriella Wiener, le livre est bien, son histoire est fabuleuse, quand on sait en plus que c'est réel, c'est passionnant, puis c'est une partie de historique moi que je redécouvrais, c'était riche, mais je me serais passée de découvrir sa sexualité détails, en fait je
oui,
ça apporte du piment dans le roman, mais c'est moi
quand je lis les résumés on n'en parle pas, on parle plutôt de son rapport avec son grand-père, avec son père aussi.
Oui.
Alors je sais pas ce que son père, tu vas nous le dire peut-être, à voir
non mais il fait parce que son père aussi c'était pareil, il avait une double vie, avait une autre femme, avait un autre enfant dans sa double vie, donc je pense que tout ça influence aussi l'arrière-grand-père pareil, enfin voilà, c'était il y avait ça aussi, mais c'est pareil, ça j'en voulais plus sur
le retour
sur Waco, en fait les Waco, je sais plus parce que j'ai lu cet été, donc je me souviens plus quel était le nom des Wacado, enfin ceux qui pillaient les Waco et les
voilà. C'est ça surtout, c'est ce rapport brutal avec se rendre compte que son arrière-grand-père pillait finalement ce qu'elle était, ce qu'était son pays, pour le ramener
jusqu'en Espagne,
je sais plus où c'était. Ouais.
Mais voilà, c'était le... Voilà, donc c'est... Alors, c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui de ce livre, parce que c'est sur cette rentrée littéraire qui... tout le monde n'arrête pas de dire « Oh, mais il y a moins de livres cette année, il y en avait quand même 466, ce qui est démesurément trop ». Voilà, on parle beaucoup des célèbres, ou de ceux qui ont eu la chance de percer, mais c'était vraiment pour... quand même, ça a le mérite d'exister, certes, mais ça, c'est bien écrit quand même, c'est pour un premier... Je peux pas dire
pour un premier roman. Mais si, c'est un premier. C'est un roman autobiographique.
Ouais, voilà.
Oui, donc.
Mais je crois que je l'aurais plus apprécié si j'avais pas su a posteriori que c'était biographique, autobiographique. Ouais. Mais c'est mon côté prude, certainement.
Peut-être. Oui, ça doit être ça. Si on écoutait de la musique péruvienne.
Ah ouais.
Est-ce que vous croyez que j'en suis capable?
Moi, tu es tout à fait capable.
El Condor, pas ça.
Sors ton ocarina, vas-y.
Allez, on va voir. Allez, on fait une pause musicale, on revient après.
Thank you. que para mí no vive, si no han de verte mis ojos, que te he perdido. Ya que para mí no vive, si no han de verte mis ojos, pues te he perdido. Daré lugar a mis penas en la amarga soledad en que me encuentro. Daré lugar a mis penas en la amarga soledad en que me encuentro. Tú me intimas el presente. Amargos recuerdos que un día fuiste objeto de mis amores. Con los amargos recuerdos que un día fuiste objeto de mis
pour cette belle chanson qui nous amène bien autre part, comme ces beaux livres. Et on va aller un peu plus loin, mais cette fois-ci, on va aller vers l'Est. On va retrouver, Pauline, un manga. Tiens, allez, ben oui, parce que c'est bien. Il faut aussi parler de manga avec Magus of the Library de Mitsu Izumi. Alors, peut-être tu le sais ou tu le sais pas, Mitsu Izumi, si c'est un mangaka ou une mangaka, parce que je n'ai pas réussi à le savoir.
Alors, je comptais sur toi pour me le dire, évidemment. Voilà.
Alors, sur ce que j'ai vu en écriture, c'est un mangaka, et dès qu'il y avait des photos, c'était une femme.
Ah.
Donc, je n'ai pas compris, mais on cherchera plus longtemps.
Et si on décidait de ne pas la genrer cette personne.
Exactement, tu as raison.
Hul.
Voilà, alors en tout cas, il ou elle est né le 7 février 1989, et il ou elle choisit très tôt de devenir mangaka. Et approfondit ses connaissances grâce à des cours d'école préparatoires pour entrer dans une université spécialisée. C'est là, plus encore que dans ses études ultérieures, que sa technique prend forme. Alors sur ce livre, elle est dessinatrice, illustratrice, et elle a aussi écrit le scénario aussi. Donc hop, tout est fait.
Alors, déjà, pourquoi j'ai choisi un manga? Cet été, je vais vous dire, j'ai lu beaucoup de livres ados. Beaucoup. Et j'ai lu le premier manga qui m'a vraiment plu. C'est bête, mais pourquoi j'ai du mal à lire les mangas? Tout simplement parce que j'y vois pas assez bien, je crois.
Une solution pour ça.
Mais oui. Mais celui-là, il m'a tellement accrochée que j'avais que les deux premiers tomes. Mais voilà, je les ai lus d'une traite. Alors le Il y a une phrase que j'ai notée au fil de ma lecture. C'est un manga pour ados. Hein, donc, faut se voilà, moi, je me mets niveau ado quand je le lis. Donc, mettez-vous en mode ado.
C'est quoi, niveau ado?
Alors, c'est une phrase marquante.
Tu prends une sucette, tu prends un appareil à dents.
Pas la sucette. Tu gardes l'appareil, t'enlèves la sucette.
T'enlèves la sucette.
Tu mets un chewing-gum à la place.
Tu mets un chewing-gum et tu dis, ah, laisse-moi tranquille, je lis.
Ouais. Et tu dis, protéger les livres, c'est tout simplement protéger le monde.
Oh, c'est beau, ça.
Voilà. Alors... comme ça, ça paraît bateau, mais on parle d'un livre pour ados et d'un livre, je suis sûre, qui va plaire énormément à...
aux ados.
Aux ados, voilà. Et donc, et qui est une ode à la lecture et au livre. Et je trouvais que c'est un pari super risqué de la part de cette mangaka d'avoir de s'être lancée là-dessus, mais c'est hyper convaincant. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire? Donc voilà, on est au Japon, hein, et l'idée d'un groupe, ça a été de créer la bibliothèque centrale, pardon, d'AFSHAC, et d'y faire travailler des personnes qu'on appelle les kaunas, alors je crois que ça veut dire les protecteurs du savoir ou quelque chose comme ça, pour justement protéger les livres. Et on va suivre dans ces mangas l'aventure de Shio, c'est un petit garçon qui vit dans la rue, il est en plus un peu mis à part parce qu'il est blond, parce qu'il a les oreilles pointues. Alors moi, dans les deux tomes que j'ai lus, on ne connaît pas vraiment ses origines, on ne sait pas vraiment ni d'où il vient, ni pourquoi il ressemble à ça. Mais on sait que c'est un miséreux, mis à part, rejeté, moqué, critiqué. Mais son rêve, c'est de rendre... Alors il adore les livres, mais son rêve, c'est de se rendre à AFSHAC pour visiter la fameuse bibliothèque centrale, donc qui possède tous les livres, qui copient tous les livres, qui essayent de rassembler les connaissances. Et donc, dans ces deux premiers tomes, il va se rendre à AFSHAC, d'abord dans un objectif de découvrir la bibliothèque, et petit à petit, en fait, il va se dire, mais ce que je veux, c'est devenir Kaunas et travailler à la bibliothèque d'AFSHAC, et donc passer le concours pour travailler dans cette bibliothèque. Donc les deux premiers tomes, voilà, c'est son trajet. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est bon, le dessin de la plupart des pages, c'est assez classique. Mais alors, il y a certaines pages de son voyage, moi, que j'ai trouvées très belles. Vraiment.
C'est beau. C'est quoi? C'est de l'encre de Chine?
Alors, je ne sais pas à quoi travaillent les mangakas. Je suppose, oui, que ça doit être de l'encre de Chine. Ouais.
De l'encre du Japon, peut-être.
Il est un peu différent, ce jeune, aussi. Il est un peu métis, il a un peu les oreilles pointues.
Voilà,
il est un peu discriminé.
Il est complètement rejeté, moqué sans arrêt. On lui jette des cailloux dès qu'il arrive quelque part. D'ailleurs, pendant son voyage, il est tout de suite remarqué quand il arrive quelque part. Sauf dans certains endroits où les gens ont accès à la connaissance, ont accès à des bibliothèques, d'accord, où là, c'est un petit peu plus facile. Les gens, plutôt que d'avoir peur, sont curieux. Donc, en fait, alors, à hauteur d'adulte, ça paraît peut-être un peu facile, un peu... Mais j'ai trouvé que c'était un message touchant et un message finalement assez rare de faire passer par la lecture l'idée que on peut ne plus avoir peur de l'autre, ne plus avoir peur du monde grâce au livre. Et j'ai trouvé que ça passait tout naturellement. C'est pas... Là, quand je le présente, ça fait très moraliste, très, très bébête. Mais non, en fait, ça passe très facilement dans cette histoire parce qu'on est surtout dans une aventure, l'aventure de ce jeune garçon qui veut changer sa vie et qui veut accéder à quelque chose qui le rendra heureux. Et à travers ça, on a tout un tas de petits messages qui passent autour du livre. Et j'ai trouvé ça très bien fait, très bien construit et très beau dans le dessin. Donc voilà, c'est un manga qui m'a beaucoup plu et voilà, et qui, à mon avis, aura l'avantage de plaire aussi aux ados tout en étant une ode à la lecture. Et c'est quand même assez rare dans les livres pour ados en ce moment pour le faire remarquer. Voilà.
Voilà. Il doit y en avoir beaucoup, je ne sais pas jusqu'à...
Il y en a 7
pour l'instant. Ah,
6 en France et 7 au Japon.
Pas mal de petites séries comme ça. Oui, d'accord. De 7-8.
Parce qu'il a commencé en 2017, apparemment.
Il a commencé.
Yule a commencé. Ouais, donc ça fait beaucoup.
Ouais, donc un très chouette manga et voilà.
Super.
N'hésitez pas à l'acheter à vos ados. Ça leur donnera envie de lire.
Voilà, et si vous ne l'avez pas, vous le commandez chez votre libraire.
Voilà, c'est là où je l'ai acheté d'ailleurs.
Exactement, c'est bien fait. Allez, à moi. un deuxième livre avant de passer à Valérie de terminer cette émission. L'Odyssée américaine, Jim Harrison, un livre sorti en 2008 qui m'avait échappé. Alors, merci à ma libraire de l'avoir fait ressortir sur les étals. Ce bon vieux Jim, on le rappelle, qui nous a quittés en 2016 déjà. Et ouais, j'ai l'impression qu'il est parti hier. Et non, ce n'était pas hier. Et que tu étais encore avec lui
il y a une semaine.
Alors, un roman que je conseille à tous nos amis agriculteurs et pêcheurs lozériens. Et en fait, même à tout le monde, parce que c'est un roman remarquable. C'est rempli d'humanité et de sexe, mais surtout d'humanité. Harrison, qui a décidé de devenir écrivain à 16 ans, on le rappelle, mais qui a souvent vécu dans les fermes. Son père était agriculteur. Qui est un homme qui vit par la nature, pour la nature, qui disait d'ailleurs « L'écriture et la pêche à la truite vont bien ensemble » et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Alors dans ce roman, c'est l'histoire de Cliff, âgé de 62 ans, l'homme qui a quitté 25 années avant son poste d'enseignant en lettres pour devenir fermier, vient de se faire quitter lui à son tour par sa femme qui est partie avec un autre homme. Alors son ex-femme qui s'appelle Vivian décide de vendre la ferme qui lui appartient et donne 100 000 euros à Cliff pour tous les travaux effectués pendant toutes ces années pour embellir la ferme et la faire tourner. Et bien, saleté de destin en plus, quelques mois après, sa chienne Lola, 13 ans, bien, elle meurt. Sa chienne qui le suivait partout et qu'on va retrouver en fait tout au long du livre parce qu'il se rappelle des histoires avec cet animal qui le suivait lorsqu'il allait veiller les veaux, lorsqu'il allait au bord de la rivière pêcher, lorsqu'il allait s'occuper des cerisiers qu'il avait sur l'exploitation, et cet animal finalement qu'il aimait plus que tout. Donc Cliff est à un tournant de sa vie, il n'a plus rien, il a ses 100 000 euros, il n'a plus de ferme, il n'a plus de femme, il a un fils homosexuel à San Francisco qui bosse dans le cinéma. Mais voilà, avec qui il aime beaucoup, mais que finalement, il dira dans ce livre, je préfère qu'il soit homosexuel que républicain, mais qui, voilà, qu'il aime beaucoup, mais qu'il voit pas. Il ne sait pas quoi faire. Alors, que faire, lui qui est resté 30 ans dans sa ferme avec le même rythme de vie, le même travail suivant les saisons, les mêmes paysages qu'il aime tant. Alors, il décide au volant de sa vieille Ford Taurus d'aller découvrir les États-Unis.
C'est ça qu'on veut.
C'est ça qu'on veut. Il prend un appareil à photo, il prend un puzzle des États-Unis. Et donc, à chaque frontière d'État, il va jeter dans un cours d'eau, dans la rivière, la pièce qui correspond à l'État qu'il vient de traverser. Et il va traverser le pays pour aller rencontrer les gens qui le peuple, mais aussi les cours d'eau, les oiseaux, les différents types de vaches. Dès qu'il voit des vaches, il s'arrête. Alors, il y a plein de vaches qu'on peut retrouver aussi en Lozère, donc c'est ça qui m'a fait halluciner, parce que quand on lit ce livre, on se dit mais qui est l'agriculteur du coin, lise ça, mais il va adorer, c'est génial, il aime la nature, il aime les animaux, il va discuter avec les fermiers. Et aussi, il est rejoint par Mirabelle, une ancienne étudiante avec qui il vit une liaison enflammée, qui a 30 ans de moins que lui, donc qui est c'est assez compliqué, elle reste sur son smartphone, donc ils ont plein d'histoires olé olé ensemble tout le long, lui qui commence quand même à être assez âgé, qui passe la soixantaine, qui n'arrive pas à suivre, mais il essaie quand même de suivre, donc il va des fois à la pharmacie pour trouver des pommades pour le calmer un peu, parce qu'il a du mal. Et
je comprends pas là.
Mais tu comprends pas, mais il faut lire le livre, je peux pas tout aussi dire. D'accord. Et Maribel lui donne un portable parce qu'elle lui dit non mais c'est pas possible, la dernière fois j'arrivais plus à te joindre, t'étais parti au bord de l'eau où t'étais, parce que lui il en peut plus de l'avoir téléphoné, ouais, donc ça se passe très bien au début, et au bout d'un moment il me dit poupe, il doit la laisser à un endroit vers le Texas, il dit mais il faut vraiment que je laisse parce que j'en peux plus, donc il a ce téléphone qui sonne, il n'ose pas répondre, ça le voilà, jusqu'au jour où il le balancera dans des toilettes et plus personne n'arrivera à le joindre, c'est très drôle. Voilà, c'est vraiment l'homme nature qui aime la nature et qui découvre tous ces paysages qu'il imaginait avec cette femme qui le suit. Donc ça, c'est très, très, très drôle par moments. C'est très beau tout le long. Il traverse 17 États le long de cette odyssée américaine. Il ne les fait pas tous. Il fait le Michigan, le Wisconsin, Minnesota, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Nebraska, Wyoming, Montana, Idaho, Washington, Oregon, Californie, Arizona, Nouveau-Mexique et Utah. Et dans cette grande traversée, au final, il faut qu'il se donne un objectif. Et Cliff se donne l'objectif de renommer tous les États des États-Unis, ainsi que les 700 espèces d'oiseaux vivant dans le pays, parce qu'il se dit, mais c'est pas normal que ces États se nomment comme ça. Et pourquoi cet État a 7 oiseaux en emblème? Et cet oiseau, il n'a pas le nom qui convient. Donc voilà, c'est l'objectif qu'il se donne. Et donc, comme il se dit, les États-Unis étaient peuplés par les Indiens avant nous. Et donc, il va se dire, je vais nommer les États par des noms de tribus d'Indiens. Voilà. C'est entre autres.
C'est fantastique.
Dans cette histoire. Alors, c'est très, très drôle, c'est très beau, c'est tout, en fait. Voilà, c'est nature, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est le temps qui passe, une ode à la liberté. Bref, c'est la vie. Chapeau l'artiste, je le conseille vraiment à tout le monde. C'est un roman assez court, c'est chez J'ai lu, assez court, c'est 280 pages. Voilà, c'est du pur bonheur.
Il plaît énormément.
Il plaît énormément, mais ça ne m'étonne pas. C'est du Jim Harrison. Voilà, il faut à tout prix le lire. Donc, Pauline, je souhaite te le prêter ce soir.
Ah, ben très bien, je te l'emprunterai ce soir.
Voilà, merci beaucoup.
Ben, il se passe des choses dans ce studio, c'est incroyable.
Valérie, avec c'est quoi incroyable. Tu nous termines cette émission ?
Moi, je vais vous ramener un peu dans, sur Terre. Là, on va arrêter parce qu'on a été dans des mangas, on a vu de la science-fiction, enfin de la fantasy avec des épopées américaines, de la sexualité à outrance chez Ludovic avec Brett et Lisbeth. Eston avec les et avec Jim Harrison. Donc moi je vais revenir encore sur une vraie histoire parce que bon ça va bien un peu de se laisser aller. Je vais vous parler d'un autre livre de la rentrée littéraire. Mon été a été un peu rythmé
c'est
par
c'est
ça.
C'est pas la prochaine émission la rentrée littéraire.
Si tu veux mais de toute façon
on n'a pas décidé de toute façon.
Il y en a un peu à foison. Il y en a des très 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 bien mais on est contraint par le temps. Donc là, c'est une autrice donc qui est portugaise, qui s'appelle Lydia Jorge, qui vit à Lisbonne. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est sa sobriété, parce qu'elle aborde un sujet qui est pas évident. Alors qu'il y a deux livres qui en parlent sur cette rentrée littéraire. Donc il y a Le jour et l'heure qui est un superbe roman qui parle de la fin de vie. En fait, une dame qui va choisir le jour et l'heure à laquelle elle va partir en Suisse, hein, puisqu'en France, c'est plus autorisé, qui a un grand succès, qui est beaucoup vendu. Et en parallèle de ça, il y a Miséricordia, donc de Lydia Jorge, qui traite de la fin de vie, mais pas de l'euthanasie. De la fin de vie de cette dame, donc, qui c'est sa mère, qui décide d'aller vivre dans un lieu donc qu'on appellerait en France un EHPAD mais qui est là l'hôtel paradis l'hôtel du paradis pardon et qui est là et tout le roman en fait est tiré de une année de la vie de sa mère qu'elle a écrit en fait tout ce qu'elle vivait tout ce qui se passait et c'est très très beau. C'est pas pathos, c'est pas larmoyant. Enfin, parfois, si, c'est larmoyant.
Malgré le Miséricordia, quand même, qui présage rien de bien sympathique.
Alors, je pense qu'autant la traduction est très sympa, autant le titre aurait pu être tout autre chose, parce que c'est très beau, c'est très... c'est assez rigolo, parce que c'est quand même un livre assez gros. Enfin, il y a quand même beaucoup de pages pour une année de vie d'une dame, et tout se passe... dans cette maison de retraite.
Ah oui.
Donc on suit donc le quotidien de cette
gros
vieille dame.
Gros huis clos, quoi.
Ah, mais un sacré huis clos, parce qu'en plus, à 50% du temps, on est dans la chambre de cette vieille dame. Donc. Mais on se rend compte de comment, en étant, entre guillemets, enfermée volontairement, on peut quand même se raccrocher à plein de détails, voir plein de choses. Et cette vieille dame, en fait, a enregistré tout ce qu'elle vivait, tout ce qu'elle ressentait, son rapport aux aides-soignants, notamment une aide-soignante qui va être là un peu un fil rouge et qui était une... je ne sais plus d'où elle était, je crois que c'était une Angolaise, mais je ne suis plus très sûre, mais, et qui l'a bougé un peu, enfin, qui avait un grand caractère, et puis son petit secret, parce que cette vieille dame, elle avait son petit secret, elle avait une lettre qui était pliée, qui était cachée. Elle avait un peu d'argent, pareil, qui était plié, qui était caché dans une doublure. Et ce qui était intéressant, ça, c'est le côté vraie vie. Elle savait que les aides-soignantes, des fois, ou les gens d'entretien, venaient et fouillaient un petit peu dans ses affaires. Donc, de temps en temps, elle n'avait plus cet argent. Enfin, mais elle leur pardonnait parce qu'elle savait que le métier était mal payé, que ce n'était pas facile. Mais elle avait tout le temps peur que ces petits mots soient retrouvés. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, en fait, c'est outre cette histoire, c'était le soir. En fait, cette vieille dame, elle avait son caractère aussi. Elle refusait de prendre des cachets pour l'aider à dormir. Mais elle racontait que ses journées, en fait, étaient rythmées par les nuits. Qu'elle ne vivait pas pour vivre le jour. Elle vivait pour attendre la nuit. Et du coup, les soignants essayaient de lui donner des somnifères, enfin des perles. Ils appelaient ça les perles. Ils lui demandaient de prendre une perle, puis une deuxième. Enfin, forcément, elle refusait de les avaler parce qu'elle elle vivait comme un combat en fait avec la nuit. Et en fait, elle raconte très souvent dans plein de passages comment la nuit en fait envahissait sa chambre, et en utilisant la métaphore donc de grandes ailes noires qui se déployaient au-dessus d'elle. Et cette nuit qui arrivait, elle était sereine par rapport à l'arrivée de ces grandes ailes noires qui recouvraient sa chambre. Et en même temps, cette nuit, elle lui demande de la laisser tranquille, de la laisser dormir ou de la prendre, parce qu'elle était prête aussi à passer à autre chose. Et la nuit, en fait, elle faisait preuve de malice. Elle lui posait des questions, mais des questions un peu rhétoriques auxquelles elle avait du mal à répondre, des questions qui l'empêchaient en fait de dormir, tout simplement. Et elle passait cette nuit on imagine cette dame allongée dans son lit, les yeux grands ouverts, à échanger avec la nuit, à essayer de répondre aux questions que ces grandes ailes noires lui posaient. Et le temps passait, et en parallèle de ce côté très, très métaphorique, très beau, très poétique, il y a la réalité de la vie qui fait que si on ne dort pas, ça ne fonctionne pas. Et les soignants qui essayent de l'amener vers ce sommeil artificiel. Et elle qui est entre les deux, entre cette nuit qui lui pose des questions, alors parfois très, très terre à terre, hein, comme du monde, mais il y a combien de pays dans le monde? Mais du coup, il y a combien de villes s'il y a autant de pays? Et elle, chaque fois, qui essaye de répondre à tout ça. Ça lui
prend quelle est cette métaphore de la nuit?
Et après, c'est par rapport à la mort.
C'est la grande faucheuse.
Le côté corbeau qui déploie ses ailes, l'oiseau de mauvais augure. Et c'est très beau quand elle le décrit. Donc, Lydia Georges met sur papier, met des mots écrits sur les enregistrements sonores de sa mère. C'est quand même très, très beau. Et c'est assez simple à lire. C'est pas du Proust, c'est pas des phrases.
Je vais te parler du rythme. Ça me paraît comme tu nous le présentes, très lent, très...
Non, c'est parce que je suis fatiguée, ça. Mais au contraire, c'est une année, justement, c'est à la fois long et c'est à la fois court, parce que ça passe vite une année. Même si on est à un huis clos, même si on est à la maison de retraite, parce qu'il y a la vie des soignants, il y a la vie de cette dame, il y a ses nuits, c'est rythmé par ses nuits, il y a les visites de sa fille, enfin, c'est quand même assez rythmé, mais c'est... La façon dont c'est écrit, ça se passe bien. Enfin, ça se lit assez vite, ça se lit... et c'est une belle... parce que le sujet de la vieillesse, le sujet de la mort, c'est pas abordé très souvent. Notamment là, sur la rentrée littéraire, il y a beaucoup la sexualité des gens, il y a beaucoup l'acceptation des genres, des choses comme ça qui sont très mises en avant. Il y a beaucoup la spiritualité, avec Amélie Nothomb, des choses comme ça. Mais là, j'ai trouvé ça très beau parce que c'est
l'ovni de la rentrée, là.
Ouais, peut-être pas un ovni, j'irai pas jusque-là, parce que des ovnis, il y en a quelques-uns.
Oui, dans le thème.
Sur le thème, j'ai trouvé ça intéressant d'aborder ça, parce qu'il n'y a pas cette violence par rapport à la mort qu'on peut avoir dans d'autres ouvrages. Et c'est plutôt bien écrit, sachant que c'est reporté d'enregistrement, qui a ce côté aussi affect, puisque c'est sa mère.
Il n'y a pas de mutilation au crochet de pêcheur de chalutier?
Ou alors j'ai sauté tout un chapitre, mais non. Non.
J'ai un livre sinon comme ça.
Oui, c'est ça. Oui.
Si ça te dit.
Non, mais il n'y a pas non plus 30 pages de...
Oui.
Voilà. Non, c'est Lydia Georges, c'est Miséricordia, et c'est chez Métellier. Et c'est franchement un livre que je conseillerais à tout le monde, parce que c'est accessible, ça traite d'un sujet certes difficile. On va pas, moi, à aucun moment j'ai ri, mais à aucun moment j'ai pleuré. Ça aborde un sujet d'un autre angle.
Donc après être allé commander une Odyssée américaine de Jim Harrison, vous pouvez vous plonger dans ce livre.
Sur les EHPAD.
Sur les EHPAD, voilà.
L'hôtel du
parent. Allez, mais merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine. Promis, on retrouvera bientôt Marlène et ou Claire dans cette émission, qui sont pas loin, qui pensent à nous, qui avaient des réunions ou qui pouvaient pas être là. Et on vous dit pas quel thème, parce qu'on en a absolument aucune idée.
On improvisera.
Mais on improvisera comme d'habitude, et on sera comme d'habitude toujours présent. Merci les filles. Et comme dirait l'autre, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il nous dit l'autre ?
Au revoir.
Au revoir.
la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On le voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un ou quand il n'y en a pas un.